Père Nicolas Sautreau, ravi de vous retrouver sur nos ondes de Radio Maria France.
Bien réciproquement. Bonsoir à vous tous. Nous nous approchons de la fin de cette aventure avec Romano Guardini, et aussi pour ce soir la fin du commentaire du Notre Père. L'Église a coutume de terminer son Notre Père par un Amen. Alors, quelques mots simplement sur le Amen, parce que Romano Guardini nous a préparé une espèce de bilan de tout ce que nous avons dit sur le Notre Père. Donc, simplement quelques mots, si vous le voulez bien. Le Amen, qui donc n'a pas besoin d'être traduit, qui est de l'hébreu, a son origine dans le langage religieux propre de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et Romano Guardini nous dit que c'est une parole de confirmation. Nous pourrions dire que c'est Amen, c'est à la fois de l'ordre de l'affirmation et de la confirmation. Dans le Deutéronome, chapitre 27, verset 10, donc, Moïse expose au peuple élu les grandes exigences de Dieu et le texte de la Bible nous rapporte « Tout le peuple répondit en disant Amen ». Voilà jusqu'où il faut remonter pour retrouver les origines de notre habitude de répondre « Amen » ou d'ajouter « Amen » lorsqu'il y a eu une parole de Dieu, lorsqu'il y a eu une prophétie de la part du Seigneur. Donc, une parole d'accueil, une parole d'écoute, une parole de consentement, qu'est cet Amen, en même temps qu'une parole de confirmation de notre consentement et de notre foi. Plus tard, lorsque le culte liturgique se sera développé dans le temple de Jérusalem, les assistants vont aussi répondre Amen au texte de prière. Et là, Romano Guardini nous donne une information très intéressante. Il nous dit que cet Amen dans la liturgie du temple permettait aux croyants d'avoir accès au sens de la prière. Donc un Amen qui signifie, dans un premier temps, j'ai compris. Voilà, j'ai compris, je crois. Je comprends ce que je peux de la prière, mais en tout cas, ça y est, je suis rentré dedans. Ce Notre Père, je suis rentré dedans et je peux dire Amen. Donc, avoir accès au sens et même à l'intention de ce que le Créateur et le Rédempteur a voulu dire dans la prière inspirée, comme les psaumes, qui a été chantée, qui a été proclamée dans la liturgie du Temple de Jérusalem. Avoir accès au contenu de la prière et au projet de Dieu. Et de dire ce projet de Dieu qui est révélé dans cette prière, oui, je l'accepte, j'y adhère, je le veux, je veux me mettre au service de cette intention de Dieu et de ce projet de Dieu. Et lorsque nous disons Amen à toutes les demandes du Notre Père, c'est vrai que c'est très important d'avoir cette adhésion aux intentions du Père éternel. Le Amen va même entrer dans la vie quotidienne du peuple de la Première Alliance. Quand quelqu'un exprime sa reconnaissance avec Dieu, une vie quotidienne baignée de la foi, bien sûr, ou bien un souhait, un espoir, celui qui écoute la parole du croyant répond Amen, comme pendant la liturgie. Répond Amen pour donner sa communion, son accord avec ce qui vient d'être dit, et pour le confirmer. Je confirme par ma propre foi ta foi. Alors dans le cadre du Notre Père, il s'agit de confirmer par notre signature, c'est bien là où on veut en venir, notre propre signature, cette prière qui a été signée par Dieu. C'est comme si nous apposions à la fin du Notre Père, nous avions l'audace, la parésia des enfants de Dieu, la liberté des enfants de Dieu, d'apposer notre propre signature à côté de celle de Dieu le Père, qui nous affirme que cette prière vient de lui, notre signature à côté du Seigneur Jésus, qui a inventé le Notre Père pour nous le donner, et notre signature à côté de celle du Saint-Esprit, dans lequel nous pouvons vivre cette prière. Notre Amen est vraiment une signature spirituelle, surnaturelle, que, en toute liberté, comme nous l'avons entendu au début de mon introduction à la prière, pendant la liturgie, nous osons dire, nous avons l'audace de dire, voilà, formés par Dieu lui-même, comme il nous a commandé de le faire, nous osons dire. Et à la fin, nous osons signer, nous osons, paraffer, confirmer. Telle est cette dimension extrêmement puissante de l'Amen à la fin du Notre Père, et qui encore une fois s'enracine et dans l'Ancien Testament et dans la liturgie de l'Ancien Testament. Grâce au Amen, pendant la liturgie du Temple de Jérusalem, celui qui prononçait cet Amen s'appropriait la prière. Il disait, cette prière, je la fais mienne, et j'entre dans la communauté religieuse qui est en train de vivre cette prière. J'entre de toute mon âme dans la communauté de tous ceux qui prient sur la volonté du Seigneur Jésus, cette prière du Notre Père. Bien sûr, nous le savons, le Amen passe directement dans le vocabulaire du Nouveau Testament. Il fait partie de ces mots araméens ou hébreux non traduits, qui sont dans le Nouveau Testament en grec, et qui sont un peu comme des rochers qui émergent du texte grec. Nous voyons surgir ces mots qui étaient ceux de la prière juive, de la prière en araméen aussi, du temps du Seigneur Jésus. Saint Paul l'utilise beaucoup, il nous dit même que le Christ est l'Amen fait au Père, qu'il est l'Amen de Dieu, l'Amen à toutes les promesses, mais qu'il est aussi celui qui dit Amen. Et nous sommes très impressionnés du fait que le Christ utilise cet Amen. Voilà. Donc nous imitons le Christ qui lui-même utilise ce mot hébreu pour commencer certaines de ses phrases, Amen, je vous le dis, et aussi pour confirmer ce qu'il a voulu dire de plus important. Le discours du Christ insiste, Amen, Amen, je vous le dis. Et là, on retrouve l'origine du mot Amen. Une origine qui est concrète, comme toujours en hébreu. Amen, c'est le rocher, le grand rocher, très lourd, très dense, sur lequel on peut construire quelque chose, bâtir sur le roc. Et Amen devient, dans le langage du Nouveau Testament, un des synonymes du mot vérité. Amen, c'est la vérité. Lorsque nous disons Amen, nous disons aussi cela est vrai. J'y crois. Et c'est vrai, c'est objectivement vrai. Et à la fin de la prière, nous redisons à quel point nous sommes dans la certitude de la foi par rapport à ce que nous venons de vivre dans ce temps de prière, dans cet instant de relation avec le Seigneur. Amen, Amen, je vous le dis. C'est la dimension liturgique, cette répétition de l'Amen, qui va se retrouver dans l'Apocalypse, avec la grande liturgie du paradis, où le Amen a sa place à côté du Maranatha et de l'Alléluia, pour exprimer non plus seulement la fidélité et la vérité, mais notre confiance dans la fidélité et dans la vérité de Dieu. Et c'est cela que nous voulons dire lorsque nous osons signer notre prière avec le Amen du Seigneur Jésus lui-même. Voilà un bref commentaire sur ce mot que l'Église ajoute à la prière du Notre Père. Les dernières pages du livre de commentaires du Notre Père de Romano Guardini sont intitulées dans notre traduction Regard en arrière. On pourrait dire synthèse ou on pourrait dire relecture dans le sens de saint Augustin. Vraiment, pour comprendre en profondeur Romano Guardini, il faut accepter qu'il est en permanence disciple de saint Augustin. Saint Augustin, à la fin de sa vie, prend le temps de relire tous les ouvrages qu'il a produits et qu'il a sous sa main, ceux qui n'ont pas été perdus, et dans un autre livre, de corriger, de dire à cette page-là, à ce moment-là, j'ai pas dit exactement comme il faut, j'aurais pu dire mieux, etc. Je me rétracte, ce que je dis n'était pas exact. Et nous allons voir comment Romano Guardini décide d'être disciple de saint Augustin au terme de son livre. Il dit, nous nous sommes efforcés d'entrer dans le contenu des demandes du Notre Père aussi profondément qu'il nous était possible de le faire. Au fur et à mesure que nous avancions, des réalités de la foi se sont déployées devant nous. Mais nous devons accepter une question au terme de notre méditation sur les paroles du Notre Père. De telles réflexions ne nous ont-elles pas égarés quant aux intentions qu'a eues le Christ en nous donnant ce texte sacré? Est-ce que le Notre Père est fait pour réfléchir dessus ou pour être prié? Est-ce que les deux attitudes s'excluent ou est-ce que l'une va être bien évidemment au service de l'autre? Le Notre Père était la réponse à la demande des apôtres, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Prier est une réalité normalement simple. S'adresser à Dieu avec confiance, lui parler intimement, le cœur lui disant sans beaucoup de considération de quoi il s'agit, parler librement. Or, ce que nous avons fait, nous, c'était finalement de la théologie, beaucoup de la théologie, de la spiritualité, mais de la théologie aussi. Nous nous sommes interrogés sur le contenu de la révélation qu'apporte le Notre Père. Eh bien, est-ce qu'une telle interrogation, un tel questionnement, ne va pas troubler la simplicité de la parole que je dois adresser à Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ma prière du Notre Père soit polluée par trop de réflexions plus ou moins intelligentes? Nos réflexions ont toujours eu conscience d'avoir affaire à une prière. Nous avons veillé à rester dans la spiritualité. Scruter le contenu du Notre Père devait donc nous aider à accéder au Notre Père en tant que prière. Non pas comme un texte, comme une poésie, ou bien comme un texte philosophique. Mais comment le nombre croissant de pensées accumulées à force de méditer sur sur les paroles et le sens des paroles, comment cela va me permettre d'aller vers la simplicité de la prière des enfants de Dieu? Est-ce que celui qui prie doit vraiment avoir conscience de ce qu'il dit en prononçant les paroles? La prière ne se transformerait-elle pas alors en pensée? Et si la prière se transforme en pensée, elle n'est plus une prière. Penser, prier, ce n'est plus prier. La prière est une affaire d'amour. Donc il y a bel et bien un risque, et probablement, au moment d'entrer dans notre Père, de le vivre comme notre prière, il est sage d'oublier tout ce que nous avons dit. Tandis que je réfléchissais à cette question, une image m'est venue à l'esprit. C'est celle de la lumière, qui est si claire et qui pourtant, comme nous l'enseigne la science, renferme la multiplicité des couleurs. La connaissance que nous avons de cette vérité scientifique ne trouble pas la tranquillité de notre regard pourtant. Elle n'empêche pas les choses d'être baignées dans la claire lumière. Le sentiment de la profondeur et de la plénitude de la lumière vient de ce que nos yeux ressentent, la multiplicité des couleurs qu'elle renferme, mais sans y prêter attention. C'est une image qui me semble répondre à notre souci. Une fois que nous avons longuement médité, nous laissons les méditations de côté et ce qui peut rester loin dans notre mémoire de ce qui a été médité, saura bien nous aider. Il faut être tout entier à la prière. Dès que nous nous recueillons et que nous prononçons les paroles du Seigneur, il nous faut les dire en toute simplicité. Il ne faut pas y mettre plus de réflexion qu'on ne peut le faire sans arrêter le déroulement de la prière. Voilà, Romano Guardini propose de ne pas arrêter le Notre Père pour essayer de se souvenir de ce qui a pu être médité auparavant. Il faut laisser, comme un chant, Notre Père est chanté, et bien souvent chanté, comme un chant, il faut laisser se dérouler. Si à d'autres moments, nous avons dans la mémoire les pensées de ces méditations que nous avons vécues ensemble, elles agiront probablement à l'intérieur de la prière. Peut-être, avec la grâce de Dieu, rendront-elles nos paroles plus riches, nos pensées plus riches et plus sûres. Peut-être pourront-elles le faire parce que nous sentirons qu'elles proviennent de la révélation de Dieu lui-même. Si il y a vraiment un enrichissement, c'est parce que nous sommes parvenus à répéter humblement la révélation que Dieu fait de lui-même dans toute l'Écriture, dans toute la tradition, et que grâce à cette révélation, nous pouvons un peu mieux entrer dans la prière que le Seigneur Jésus nous a laissée. Ce sont les dernières idées de Romano Guardini au terme de son commentaire du Notre Père, à la fois marqué par une très sincère humilité et par une très grande foi. Peut-être que ce que nous avons essayé de déployer, dit-il, ne servira pas à grand-chose, mais si nous avons pu au moins répéter quelques lumières qui viennent de la Bible, alors nous aurons accompli le service du Seigneur. Le thème général était signer Dieu, et avant tout, c'est pour nous l'Écriture qui est signée Dieu, même si nous croyons que la liturgie est aussi portée par le Saint-Esprit. Et pour terminer tout notre parcours, je voudrais vous proposer, peut-être aussi pour ouvrir sur le temps de l'été, sur les lectures les plus essentielles pendant le temps de l'été, où traditionnellement il peut y avoir un peu plus de temps accordé à la lecture, on peut même aussi décider qu'il y aura plus de temps accordé à la lecture, puisque les jours sont plus longs. Comme une ouverture, je vais vous proposer un passage très original de Romano Guardini au sujet de l'image du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors je vais démarrer tout de suite avant la pause. Et puis nous nous arrêterons assez rapidement. Celui qui aborde le Nouveau Testament pour apprendre qui est Jésus-Christ fait peut-être une expérience étrange. Voilà, le décor est planté, le Nouveau Testament. Donc, s'il y a une lecture essentielle pour vivre un été spirituel fécond, Romano Guardini nous dit le Nouveau Testament. Expérience étrange qui a dû être la sienne ou celle de tous ces étudiants, tous ces grands jeunes, tous ces jeunes professionnels dont il s'est occupé, qu'il a essayé de prêcher, d'évangéliser et d'enseigner. Expérience étrange, dit-il. Involontairement, celui qui aborde le Nouveau Testament en cherchant qui est le Seigneur Jésus, involontairement, il pense que les évangiles seront les premiers guides et que parmi les évangiles les plus anciens, les trois évangiles synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, vont avoir la première place. Autrement dit, on se jette sur les évangiles. Si celui qui est dans cette démarche a quelques connaissances des recherches modernes, alors modernes, nous sommes dans les années 50 lorsque Romano Guardini prêche cela, quelques connaissances des recherches modernes sur les sources des évangiles, il prendra pour commencer l'évangile selon saint Marc. Et s'il veut creuser et encore creuser, il va même partir à la recherche, à l'intérieur du si bref évangile selon saint Marc, du saint Marc primitif et de la source des paroles contenues dans l'évangile selon saint Marc. Donc, se jeter sur l'évangile selon saint Marc. Tel pourrait être le réflexe, si on veut, du chercheur du visage du Christ. Par cette attitude, ce chercheur du Christ se conforme à ce qu'on pourrait appeler le dogme de la science historique, qui veut que les plus anciennes paroles sur une personnalité soient les plus dignes de foi, alors que les développements et les transformations vont commencer ensuite. On cherche donc à apprendre ce que disent du Seigneur Jésus les premiers récits accessibles. On est convaincu de trouver en eux la vérité plus pure et d'un accès plus facile. Alors on remarque que ces synoptiques, prétendus simples, bref, ne le sont pas du tout. Et si le regard de ce chercheur du Christ est assez pénétrant, il verra aussi d'où vient cette apparence de simplicité. Cela semble provenir du fait qu'on a réduit le Seigneur Jésus que l'on y rencontre à sa simple humanité, en ne cherchant pas trop ce qui dépasse l'humanité. Voilà ce qu'on pourrait appeler le réflexe, la volonté immédiate de faire quelque chose à partir du Nouveau Testament pour découvrir le visage, la figure du Seigneur Jésus. Donc, pas les synoptiques, pas l'évangile selon saint Marc, pas le noyau de l'évangile selon saint Marc. Que veut donc nous dire Romano Guardini? Il conduit, il continue, il dit « Celui qui cherche encore et encore va avancer et va arriver à l'évangile selon saint Jean. Il le trouvera normalement d'une approche plus facile finalement, mais non pas totalement facile, non pas de telle sorte que ce chercheur du visage du Christ aurait le sentiment de voir les choses se présenter de façon totalement satisfaisante. Il va donc poursuivre son enquête et parvenu à saint Paul, il sentira bientôt qu'il a trouvé le point favorable. Voilà où voulait en venir Romano Guardini. Lisez les épîtres de saint Paul. Lisez saint Paul, ça peut paraître un petit peu étonnant. Ne reprenez pas les évangiles avant tout, mais lisez les épîtres, lisez-les les unes après les autres, peut-être les plus courtes d'abord, et lisez-les comme des lettres, comme si saint Paul vous les avait écrites pour vous, mais des lettres dont vous savez qu'elles sont signées Dieu, des lettres qui sont la révélation, des lettres qui sont l'écriture sainte. Dieu parle, Dieu me parle. Dieu s'adresse à moi pour me révéler son cœur, pour me révéler ses intentions les plus profondes et pour me révéler comment recevoir sa vie éternelle. Eh bien, c'est par des lettres, finalement. C'est avec l'instrument tout simple de la lettre que Dieu va essayer de vous dire qui est son Fils unique. Va essayer de vous présenter la figure de son Fils unique, l'image réelle du Seigneur Jésus, afin que vous soyez renouvelés profondément dans votre foi, que vous soyez renouvelés dans votre rencontre avec le Seigneur et le Sauveur en personne. Et voilà l'affirmation délibérément, j'allais dire scandaleuse, mais oui, on peut dire scandaleuse, délibérément choquante et provocante de Romano Guardini. Ce ne sont ni les synoptiques, ni Saint Jean, ni d'ailleurs aucun des évangiles qui introduisent dans l'univers du Nouveau Testament, mais c'est Saint Paul. Voilà. Si nous voulons être introduits dans l'univers du Nouveau Testament, c'est écrit, cette écriture sainte qui est le sommet de la Bible. Si nous voulons être introduits, il faut prendre Saint Paul comme guide. Et pour cette raison que la situation de Saint Paul est la même que la nôtre. Saint Paul et le Saint-Esprit écrivent les lettres, ils nous adressent ces lettres, et ils nous adressent ces lettres un peu d'égal à égal à cause de cette situation similaire. Saint Paul est le seul apôtre qui n'a pas vu le Seigneur Jésus, le Jésus terrestre qui cheminait sur les routes de Terre Sainte, qui enseignait et guérissait dans les villages et les villes, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Saint Paul a eu des renseignements sur le Seigneur Jésus seulement de la même manière que nous-mêmes. D'une part, extérieurement, par le message de ceux qui parlaient de lui et par les effets que le Seigneur continuait à produire dans l'histoire, et d'autre part, et là, Romano Guardini nous affirme qu'il en est de même pour nous. D'autre part, intérieurement, lorsque le Seigneur appelle, lorsque le Seigneur donne son Esprit Saint, quand le Seigneur donne à l'esprit et au cœur l'expérience de sa présence. Nous sommes, d'après Romano Guardini, dans la même situation que Saint Paul. Nous avons besoin des renseignements qui nous viennent des apôtres et nous avons besoin de cette influence divine du Seigneur Jésus lui-même et du Saint-Esprit qui nous permettent de le rencontrer. Quand Saint Paul construit son image du Christ, il puise donc fondamentalement aux mêmes deux sources que chacun d'entre nous. Pour essayer de connaître le Seigneur Jésus, il a ces deux sources, le message des témoins, le message des apôtres et l'expérience spirituelle, la lettre et l'Esprit Saint. Et lorsque Saint Paul nous écrit, il nous écrit à partir de ces deux sources. Ce qui nous manque à nous et qui joue un si grand rôle chez les premiers apôtres, avoir été là, a manqué aussi à Saint Paul. Et nous ne nous trompons sans doute pas en supposant humblement que Saint Paul en a beaucoup souffert et qu'il a eu beaucoup de peine à soutenir malgré ce manque, sa dignité d'apôtre. C'est très clair dans la lettre aux Galates. Mais précisément parce que telle était sa connaissance du Seigneur Jésus, il est notre homme. Et si quelqu'un prétend comprendre le Nouveau Testament sans Saint Paul, il faut craindre qu'il ne soit pas encore très avancé sur la trace du Christ réel. Ça fait partie du langage cash, brut de décoffrage de Romano Guardini, avec toute sa douceur habituelle. Il y a un moment où il se laisse aller à dire les choses vraiment comme il le pense. Il rencontre des chrétiens qui lui disent qu'ils n'ont pas besoin des lettres de saint Paul, que l'évangile leur suffit complètement. Et alors il répond avec le sens polémique qui est le sien. Si tu prétends comprendre le Nouveau Testament, donc comme il a dit tout à l'heure, être introduit dans l'univers du Nouveau Testament sans saint Paul, eh bien je crains pour toi que tu ne sois pas encore très avancé sur la trace du Christ réel. Tu ne peux pas te passer de saint Paul. Et si dans une démarche spirituelle qui ressemble un petit peu aux exercices spirituels, aux retraites spirituelles, tu veux reprendre presque à partir de zéro, plutôt à partir de Dieu, tout ton chemin de foi et de connaissance du Seigneur Jésus, il faut recommencer par saint Paul. Tu prends les épîtres et tu les lis. Et après, peut-être il y aura le temps pour lire les évangiles, donc nous avons bien compris, probablement saint Jean en premier, puis les trois évangiles synoptiques, mais l'introduction, ce qui permet de reprendre tout, c'est la lecture sans aucune approche trop intellectuelle, sans aucune approche qui se veut profondément critique ou d'analyse, la lecture des lettres de saint Paul, comme on lit des lettres. Les actes des apôtres, eux, nous rapportent que la jeune Église mena d'abord une existence silencieuse, tout insérée encore dans la vie de l'Ancien Testament. À deux reprises, cette jeune Église est frappée, mais ces persécutions n'arrivent pas à faire tomber la fermeté des apôtres. Un homme paraît au premier plan, c'est saint Étienne. Il est accusé d'avoir proféré des blasphèmes contre la loi. On lui donne la parole pour se défendre. Il est rempli du Christ. Son cœur frémit. Tous déclarent qu'il faut qu'il soit lapidé. Les témoins, disent les actes des apôtres, avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul approuvait ce meurtre. Ne respirant que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur. Il ravage l'Église, il va de maison en maison, traîne hommes et femmes en prison. Ensuite, il reçoit les pleins pouvoirs pour étendre son action malfaisante, il part pour Damas, et tandis qu'il s'y rend, le Christ s'avance vers lui, comme le racontent encore les actes des apôtres. Cela nous introduit à la question sur l'auteur de ces lettres, quel homme était donc saint Paul? Puisque nous avons décidé de lire ces lettres comme nous étant adressées à nous personnellement. Nous pouvons le deviner d'après ces lettres. Celles-ci ont été écrites à une époque où il avait déjà triomphé de ses grands péchés de sa vie. Peut-être faut-il nous rappeler que saint Paul était physiquement chétif, qu'il était timide. Les habitants de Lystre pensent qu'il est un dieu, mais il ressemble quand même vraiment pas à grand-chose. Et c'est Barnabé qui présente beaucoup mieux, qui va être compris comme étant le chef, parce que saint Paul est petit et sans apparence. Voilà donc l'auteur de ces lettres. Il n'ose peu parler. Saint Paul dit qu'il a en plus cet aiguillon qu'il porte dans sa chair, l'ange de Satan chargé de le souffléter. Saint Paul n'a pas l'élan naturel de l'homme en pleine santé et sûr de lui-même. Quand on entre dans sa façon de penser et de parler, dans le mouvement de sa respiration intérieure, on peut dire plus encore. Il a été un homme qui a assumé des choses difficiles, qui a eu des éléments hostiles contre lui. On peut même dire que c'est un homme tourmenté. Saint Paul a beaucoup souffert, sans cesse et de tout. Nous pouvons lire ses épîtres de ce point de vue particulier. Il voulait devenir bon, juste et saint, mais il croyait devoir y parvenir par la contrainte, en se faisant violence. Il voyait le bien comme un perpétuel « tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela », et sa nature était rebelle. Bien sûr, il possédait un génie religieux. Il brûlait de zèle pour la loi de Dieu et pour le sanctuaire. Son zèle était même parfois obscur et violent. La loi est tout pour saint Paul. Saint Paul rencontre l'Église, il rencontre la jeune Église, mais il ne voit que des individus qui ne se soumettent pas à la loi de Dieu. À la vue de Saint-Étienne, il y a même une jalousie forte qui entre en lui. Je me tourmente et je désespère, j'ai du mal à avoir la foi, je suis dans les ténèbres et Saint-Étienne rayonne. Pouvons-nous commenter? L'événement a lieu ensuite devant Damas. C'est la lumière qui enveloppe Saint Paul. Alors voyons bien où veut nous conduire Romano Guardini. Il veut que nous, en même temps que nous puissions nous identifier à Saint Paul, tellement contrasté, quelqu'un qui finalement n'a pas beaucoup de qualités et a du mal à être un homme religieux, serein, apaisé, spirituel. Et en même temps, Romano Guardini voudrait que nous demandions au Seigneur de se révéler à nous comme il s'est révélé à Saint Paul. Que, au milieu de toutes ces contradictions qui peuvent exister en nous, il y ait le surgissement de la lumière divine, il y ait la figure du Christ ressuscité qui se dévoile d'une façon salvifique à notre âme. La lumière enveloppe soudainement Saint Paul. Et en lisant les épîtres, nous pouvons inlassablement prier, demander au Seigneur qu'il se révèle à nous-mêmes. C'est une réalité, ce n'est pas une image, cette lumière. C'est une lumière peut-être extérieure, physique, c'est surtout une lumière intérieure, spirituelle et divine. C'est la réponse à tant de prières. Seigneur, montre-moi ta face, Seigneur, révèle-moi ton visage. La lumière enveloppe Paul. La lumière le jette à terre, le prive de la vue. Mais dans cet aveuglement, quelqu'un parle et se révèle. C'est celui que saint Paul persécutait, le Christ. Dans les ténèbres, quelqu'un parle et se révèle. Voilà ce dont va vouloir témoigner inlassablement saint Paul. Saul est conduit à Damas comme un malade. Il reste 3 jours dans un abattement profond. Puis il retrouve la vue, il prend la nourriture. Désormais, il sera un apôtre ardent. Et saint Paul nous communique son expérience. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est la Pentecôte pour saint Paul, et saint Paul va nous inviter à demander cette grâce de Pentecôte pour nous, afin que nous puissions être saisis par la figure du Christ. Lisons saint Paul, comme nous y invite avec beaucoup de force Romano Guardini. Repartons du Christ grâce à cette lecture simple, détendue, facile, joyeuse des lettres de saint Paul et inlassablement implorons cette grâce rencontrer le Seigneur Jésus.
Chers auditeurs, c'était notre émission Signez Dieu avec le Père Nicolas Sautreau. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.